France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il a sorti la viole de gambe de l'oubli. Il court le monde pour partager la musique. Il est à l'Opéra Comique à Paris en ce moment, où il dirige deux ballets de Gluck. Jordi Savall est mon invité à partir de 13h. Mais on commence avec notre plateau critique quotidien, au menu du spectacle vivant, avec d'abord l'opéra Il Trittico, qui a fait battre le cœur des spectateurs de l'Opéra Bastille, et puis l'hôtel du libre-échange de Georges Feydeau, mis en scène par Stanislas Nordet. Vous écoutez les Midis de Culture, c'est une de vos grandes qualités. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture, ici même sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour Zoé Sfès, critique musicale et productrice de la série musicale sur France Culture.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Florence, Paris et Sienne, de la farce à la tragédie, de l'enfer au paradis. Voilà ce que l'opéra peut faire en une soirée qui va, semble-t-il, faire date. Il Trittico, c'est le titre de cet opéra de Puccini, rarement monté et encore moins dans sa totalité, car il s'agit en réalité de trois pièces, d'un acte dont le metteur en scène allemand Christoph Loy a choisi de bouleverser l'ordre. Gianni Schicchi, puis Il Tabarro et enfin Suor Angelica, présenté triomphalement au Festival de Salzbourg en 2022. Il Trittico s'empare en ce mois de mai de la scène de l'Opéra Bastille avec, dans les trois rôles titres, et c'est un tour de force, la soprane lituanienne Asmik Grigorian qui a fait ses débuts à l'Opéra Bastille. On commence par un avis rapide, Zoé Sfès.
Rapide, et ben, je pense que moi j'ai vécu avec cet opéra probablement l'une des sensations les plus fortes vécues à l'opéra depuis des années, de très très loin à Bastille. C'est une réussite absolument total cet opéra pour plein de raisons, parce que on découvre un opéra qui a été hyper malmené au cours de sa vie, qui a un peu plus d'un siècle quoi, parce que c'est de 1918, et on découvre l'intelligence de Puccini. Encore une fois, moi qui suis tellement amoureuse de lui, j'avais en tête que c'était un opéra embêtant, mal conçu, alors que c'est du génie et qu'on se retrouve à aimer encore plus Puccini en cette année de mon centenaire. Et puis la découverte de cette immense chanteuse, mais surtout de cette immense actrice qui est Asmik Grigorian, qui d'après moi est probablement une révolution dans l'opéra autant que peut-être l'a été Marie Callas, et j'avoue que je pèse mes mots. Voilà.
Marie Sorbier.
Ah bah moi j'ai trouvé ça magnifique, et je me suis dit pendant toute la représentation, mais quelle chance avons-nous, nous spectateurs de 2025, de pouvoir vivre des moments pareils, notamment à l'heure où on le sait, les opéras souffrent de toutes les baisses de subventions qu'on entend dans le milieu de la culture, et quand on voit des productions comme ça, on comprend à quoi servent ces subventions publiques. C'est-à-dire que, on l'a dit, vous l'avez dit Marie, il y a trois opéras en un, donc déjà on passe une soirée trois en un, ce qui est déjà pas mal.
On en a pour son argent.
On en a pour son argent, exactement. Et en plus, et c'est ce que je développerai tout à l'heure, mais moi j'ai eu l'impression de comprendre peut-être pour la première fois de ma vie ce que ça voulait dire un opéra populaire, parce que j'y ai vécu en fait des émotions. Et d'ailleurs je l'ai vu il y a quelques temps et je me demandais qu'est-ce qui reste, comment on digère les spectacles. Je ne l'ai pas vu hier, donc ce n'est pas frais comme si voilà, je venais de vivre ce spectacle. Et pourtant ce qui me reste primordialement, ce sont les émotions que j'ai vécues ce soir-là. Émotions individuelles bien sûr, enfin intimes, ce que j'ai vécu moi, mais surtout émotions collectives, et on ne le redira jamais assez. Le spectacle vivant, c'est vivre ensemble une même pièce. Et là, on a ri, on a pleuré ensemble.
On va écouter tout de suite un extrait d'Il Trittico, c'est Il Tabarro.
Yeah.
Il Tritico, dirigé par Carlo Rizzi, mise en scène par Christophe Loy. C'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 28 mai. Et donc, il faut s'y précipiter si on peut encore.
Voilà, si vous pouvez encore. En fait, si vous avez les moyens et que vous avez envie de voir un opéra dans votre vie et que vous êtes libre mercredi soir, sérieusement, faites-le. Offrez-vous ce plaisir. Je suis obligée de le dire, j'ai choisi un extrait qui n'est pas l'extrait le plus célèbre, qui est un extrait de l'opéra qui était initialement l'opéra qui débutait toute cette affaire, qui s'appelle Il Tabarro et qui est la vraie redécouverte de cette production. L'air le plus connu, vous le connaissez, c'est O mio babbino claro, qui a été chanté par Maria Callas, qui est un espèce de tube comme ça, et c'est assez emblématique de l'histoire de cet opéra. Cet opéra, c'est un projet de Puccini, c'est très important de le comprendre, c'est son avant-dernier opéra, puisqu'il va mourir après, pendant l'écriture du dernier. Et en fait, Puccini, dont je suis folle et je connaissais pas cet opéra, donc quel cadeau immense, Puccini, son immense génie, et je vais rejoindre ce que dit Marie, c'est que c'est le type qui a, en gros, tout inventé après Wagner, c'est le maître de la progression de l'émotion au long d'une intrigue. C'est un type qui cherchait ses livrets d'opéra pendant des années. Il a écrit que 9 opéras sur une vie très longue, mais tous sont des bangers, à part les deux premiers. Vous les écoutez en permanence, c'est la Tosca, c'est la Bohème. Et c'est un homme qui cherchait toujours, d'une part, des livrets qui auraient une vraie finesse, une vraie intelligence, qui a choisi ensuite ce qu'on appelait des livrets véristes, c'est-à-dire qui seraient proches, avec des intrigues proches des gens qui s'interpellent, avec des personnages populaires. C'est vraiment un grand compositeur de la musique populaire, et c'est vraiment un compositeur du XXe siècle, hein, on oublie souvent ça de Puccini, là on est dans les années 20 en fait. Il met des années comme ça à trouver des livrets qui va changer et auxquels il s'adapte toujours. Il va chercher la couleur locale quand il est à la Bohème. Quand il fait la Bohème, c'est à Paris. Il va chercher des couleurs parisiennes. Il va faire des scènes de groupe où les gens s'interjectent comme au café à Paris. Quand il est dans Tosca, ça va être que des dialogues entre trois personnes qui se hurlent dessus à l'italienne parce qu'on est à Rome. Et là, il a ce projet, après l'énorme succès de Tosca, qui était différent de ses opéras d'après, de se dire, je vais essayer, pour travailler la forme et solliciter le compositeur en moi, de créer une forme où il y aurait 3 opéras en un. Ce serait un triptyque, le tout évidemment mu, inspiré par Dante, qui est toujours un peu l'inspiration fatale de tous les Italiens. Donc il serait comme ça une progression vers plusieurs cheminements qui ferait cheminer l'âme du spectateur en très peu de temps. Et donc il va monter cet opéra. Je ne vais pas revenir sur le montage concret. Dans les quelques opéras qui n'ont pas marché de Puccini, qu'on ne voit plus aujourd'hui, ils ont toujours été des succès populaires énormes à l'époque. Et ils sont tombés en désuétude, on ne sait pas trop pourquoi. Là on sait pourquoi, puisqu'on a 3 opéras en un, d'un acte, ce qui est quand même un tour de force complètement dingue, c'est-à-dire qu'il est censé vous expliquer une histoire, vous faire monter et vous amener à une acmé en une heure. Il va le faire, et là, je prends le parti pris de Christophe Loy, qui nous représente cet opéra qui n'a pas été présenté depuis plus de 40 ans à l'Opéra de Paris, qui est très peu présenté, et il va un tout petit peu inverser l'ordre. On commence avec la pièce qui a eu le plus de succès dans l'histoire et qui encore aujourd'hui jouit, qui est une comédie, Giannis Kiki, qui est une comédie en un acte. On est vraiment sur une farce qui emprunte autant à Fedo qu'à la Commedia dell'arte italienne, une famille de Florentins qui enterre un oncle et qui découvre qu'il a tous les gays à l'église. Comment on va faire pour essayer de récupérer cet héritage? C'est millimétré, c'est au cordeau, c'est des scènes de groupe, c'est des interjections, c'est une musique hyper vive, hyper intelligente, hyper fine. Ensuite, Loy va nous jouer l'opéra le plus mal aimé de ce fameux triptyque qui s'appelle Il Tabarro, qui veut dire en fait la cape, et qui était un opéra qui a été celui qui a eu le plus de succès à l'époque et qu'on ne joue plus du tout aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle du mélodrame. C'est du mélodrame, c'est-à-dire un truc que les spectateurs de l'époque regardaient beaucoup, c'est toute cette ambiance film noir, toutes ces espèces de crimes qu'on voyait dans les premiers films muets, un peu Murnau, un peu glauque, musique glauque, et 2 meurtres sur scène, en gros, 1 meurtre sur scène et de la mort. Chose qui a assez mal vieilli finalement dans la vie des spectateurs. Et là, Christophe Loy va nous ramener vers la manière dont les spectateurs de l'époque l'ont découvert, en nous le mettant façon Quai des Brumes, en faisant des clins d'œil à la fois à Jean Gabin, à l'expressionnisme allemand. Et à la fin, on a cette incroyable opéra en un seul acte, Suor Angelica, sur lequel on va évidemment revenir. Mais Christophe Loy bouleverse l'ordre pour restituer une forme de progression dans l'émotion. Et le projet de Puccini apparaît dans l'extraordinaire génie de ce compositeur, c'est-à-dire que en inversant cette progression et en l'adaptant au goût du jour et en le menant avec vraiment, il rentre dans le projet de Puccinien de vous faire progresser et vraiment vous vivez une espèce de transcendance, de moment d'antien quoi. Et c'est pour ça que ça fonctionne génie total de cette musique de Puccini, qui sait se mettre dans des longues mélopées, dans des scènes de groupe hilarantes, et dans cette musique qui peut, voilà, comme ça, vous déborder en à peine une heure.
On va passer la parole à Marie, peut-être revenir sur Asmik Grigorian, hein, ouais. Parce que cette révélation...
Alors, incroyable, j'allais dire... avec deux voix différentes, c'est-à-dire que évidemment sa voix, moi je l'avais jamais entendue chanter, et on ne peut pas ne pas être touché, même quelqu'un qui n'écouterait pas d'opéra, qui ne connaîtrait pas la musique, elle a quelque chose qui dépasse, voilà, qui dépasse la culture musicale. Il y a quelque chose, elle s'adresse, sa voix s'adresse directement au cœur des gens, et c'est pour ça que c'est de l'opéra populaire. C'est-à-dire qu'elle a une voix avec des couleurs magnifiques, elle a un petit gabarit, elle apparaît sur scène, elle joue aussi bien une enfant, enfin une jeune adolescente, que une femme plus âgée. Tout ça marche merveilleusement bien, on y croit. Quoi qu'elle fasse sur scène, on est avec elle. Elle est aussi dotée, je vais revenir sur sa voix, mais de talent de comédienne que j'ai rarement vu. Alors à l'opéra, et ça il faut encore souligner Christophe Loy là-dessus, parce qu'il a mené une direction d'acteur, vraiment comme au théâtre. Hein. Il vient du théâtre, Christophe Loy, il est aussi chorégraphe d'ailleurs, mais il a beaucoup travaillé avec Luc Bondy notamment, et on sent cet aspect théâtral, c'est-à-dire qu'il a dirigé les chanteurs comme des acteurs. Alors ça c'est très plaisant quand on arrive surtout avec des opéras comme ça resserrés d'un acte. Et bref, et cette chanteuse, cette soprane qui touche, je pense, n'importe qui avec sa voix et ses envolées, mais elle est incroyable. Elle arrive par moments, elle se met devant la scène, elle est toute seule. Il faut dire que la mise en scène est quand même très épurée. Parfois, il n'y a quasiment rien derrière elle. Elle porte les rôles toute seule et elle chante. Et même si vous ne comprenez pas l'italien et même si vous ne lisez pas les surtitres, on comprend parfaitement l'émotion qu'elle est en train de nous donner. Et ça, c'est quand même un cadeau incroyable quand on est spectateur, parce qu'on se laisse complètement envahir par une voix humaine qui enveloppe toute cette salle de l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille, pour ceux qui ne sont jamais entrés à l'intérieur, c'est un opéra qui est assez froid. On est loin du rouge et des dorures. Hein. On est dans un opéra contemporain, donc on est entouré de gris. C'est immense. Les spectateurs sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est quand même une ambiance assez, assez froide, on peut le dire. Et là, par la magie de cet opéra et de cette chanteuse, eh bien, elle est arrivée à réchauffer l'Opéra Bastille. Et vraiment, je crois que 100% du public était là ce soir-là, était conquis. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et je crois que je garderai ça tout au long de ma carrière de spectatrice, c'est que rire ensemble et pleurer ensemble, tout ça dans une même soirée, en 3 heures de temps, ça arrive assez rarement. Et quand je dis rire et pleurer, c'est du vrai rire.
Et vous avez vraiment pleuré, Marie?
Et j'ai vraiment pleuré, ce qui m'arrive quand même très très rarement. Mais sur le troisième opéra, hein, dans Suor Angelica, c'est l'histoire d'une mère qui s'est retrouvée au couvent. Et donc on la voit avec les sœurs. Et en fait, elle apprend que l'enfant qu'elle a laissé est mort. Et elle apprend cette mort-là. Et elle a des chants mais absolument sublimes qui s'adressent à Dieu et qui s'adressent au monde. Et en fait, cette lamentation, cette Mater Dolorosa qu'elle est en train de chanter, je pense que vraiment, on ne peut pas ne pas être sensible à ça. Et après avoir ri aux éclats, parce que le premier dont vous venez de parler, hein, Giannis Kikis, qui est quand même, c'est extrêmement drôle, hein, on dirait du cinéma. Les scènes de groupe sont incroyables, c'est de la satire, enfin bref. Et on rit à gorge déployée, on rit vraiment, c'est pas du sourire. Et au dernier, on pleure vraiment. Et ça, l'émotion comme ça, tirée à l'extrême des deux côtés en une seule soirée, c'est quand même quelque chose que l'opéra peut nous faire vivre. Et là, on le vit.
Zoé Sfez.
On le vit. Alors, je tiens à dire quand même que là, on parle d'un opéra. Il n'y a plus qu'une séance, ça coûte très cher. On vous parle de ça aussi parce qu'il y a une captation. Oui. Vous pourrez découvrir sur Arte. Et vous allez découvrir ce qu'on dit à la fois d'Asmik Grigorian et de la musique de Puccini. Parce qu'en fait, c'est qui Asmik Grigorian? Et Christophe Loy, qui fait une mise en scène très épurée, très classique, mais qui est vraiment au cordeau, qui, sur Il Tabarro, sur certaines pièces, vraiment amène des éléments qui sont juste les bons éléments pour réactualiser des livrets qui ont été pensés comme parfois un peu vieillots, parce que c'est toujours un peu l'opéra, alors que pas du tout. C'est
et surtout,
tellement...
il les rend totalement intemporels, il les sort de l'époque.
Complètement, il les sort de l'époque, on est à la fois chez le parrain, on est dans un couvent qui pourrait dans les années 30, 40 ou encore aujourd'hui. Encore une fois, ce qui fonctionne, c'est cette mise en scène qui pourrait avoir l'air paresseuse, mais qui l'est pas du tout, qui est classique, intemporelle et qui est centrée sur la direction d'acteur. Encore une fois, c'est ça qu'il faut à l'opéra. Et qui souligne surtout l'intelligence de ces livrets. Je tiens à dire aussi que vous allez pouvoir découvrir le visage d'Asmik Grigorian quand vous regarderez cette captation. Il faut la regarder, c'est sur Arte. Vous allez comprendre ce qu'on dit. L'intelligence, c'est cette intelligence parfaite de ces trois personnes. Christophe Loy qui se met en retrait pour nous permettre de redécouvrir une œuvre qui a été malmenée. Cette Asmik Grigorian qui est, encore une fois, plus une actrice qui chante. Et c'est ça, l'opéra. L'opéra, c'est ça, et qui dit, et qui le dit, moi, je peux faire ça, parce que Puccini a écrit ce qu'il a écrit. Et Puccini, c'est vraiment ça, et surtout, on parle aujourd'hui beaucoup de l'inadéquation de l'opéra, ça coûte trop cher, c'est très long, c'est des livrets un peu misogyne quand même. Voilà, la fille meurt toujours à la fin. Là, vous allez découvrir, à part Janiszky qui est un bijou absolu d'écriture au cordeau, d'intelligence de l'écriture, on se tape des barres, vraiment, faut le dire, énorme coup de chapeau à toute cette troupe qui fonctionne comme un esprit de troupe où chaque personne a un mouvement en permanence, sa grouille, sa fourmi, et à Misha Karian qui incarne ce Janiszky. Mais les deux livrets du Tabarro et de Suor Angelica, c'est des livrets qui n'ont pas pris une ride. Il Tabarro, vous commencez, vous vous dites, oh là là, ça va être un mélodrame de boulevard, c'est une femme qui trompe son mari, voilà, avec un autre type, le mari est jaloux, bon voilà, c'est vieux. En fait non, qu'est-ce qui s'est passé dans leur couple? Pourquoi ils se touchent plus? Pourquoi est-ce que ce mari la cherche? Pourquoi est-ce qu'elle le fuit? Parce qu'ils ont perdu un enfant. Ils ont perdu un enfant et en fait, ils n'arrivent plus à se toucher. C'est ça le vrai crime. Le crime, on le découvre après. Le crime, c'est pas le crime de l'amant, c'est pas l'adultère. Et dans Suor Angelica, c'est une jeune femme de la haute société qui a été contrainte, on le comprend, à aller au couvent parce qu'elle a eu un enfant hors mariage et qu'elle est la honte de sa famille. Et quand on sent qu'elle a tout mis, toutes ses forces pour se faire pardonner, pour se racheter auprès d'elle-même, auprès de la société, quand elle apprend la mort de cet enfant, soudain, elle enlève son vêtement de religieuse et en une seconde, elle remet sa petite robe avec laquelle elle est entrée au couvent. Elle fume une cigarette et soudain, on voit la jeune femme libre, la jeune femme joueuse, la jeune femme qui jouissait de la vie qu'elle a pu être, qu'elle a dû être. Quelle modernité, quel immense talent de tous ces gens ensemble.
Oui, je ne sais pas si on l'a assez dit, mais le génie aussi de cette mise en scène-là, c'est que... C'est Asmi Grigorian qui interprète les trois rôles et je crois que c'est une première. Hein. Je crois que personne.
Alors c'est pas une première, non. Ça a été fait, plusieurs fois, mais pas à Paris. C'est une première. C'est très très rare. Il y a eu une création à la création. Il y avait quelqu'un qui était sur les deux rôles derniers. Et puis c'est arrivé dans les années. Mais c'est vraiment une prouesse parce que
c'est une idée géniale
parce
qu'elle crée un fil entre ces trois opéras qui a priori n'ont pas beaucoup de liens. En tout cas, quand on arrive comme ça, on voit pas le tissage entre les trois. Elle le rend complètement explicite et encore une fois, elle change d'apparence de façon magnifique. Et là, c'est le jeu d'actrice qui ressort.
Il Trittico, on va s'arrêter là, même si on a très envie de continuer. Il Trittico de Giacomo Puccini, dirigé par Carlo Risi, mise en scène par Christophe Loy. Donc c'est jusqu'au 28 mai 2025 à l'Opéra Bastille et donc disponible en streaming.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il aura fallu 20 ans pour que Stanislas Nordet revienne goûter à Feydeau après la puce à l'oreille. C'est à l'hôtel du libre-échange que l'ancien patron du Théâtre National de Strasbourg s'attaque. Nordet et le vaudeville, c'est pas forcément l'assemblage le plus évident, tant le metteur en scène et comédien est associé au tragique. Pourtant, il voit dans l'écriture de Feydeau ce tragique de nos petites existences cachées sous la farce. L'argument, c'est du pur Feydeau. Les Pinglet et les Paillardin se fréquentent, mais Monsieur Pinglet a des vues sur Madame Paillardin qui le lui rend bien. Rendez-vous est pris pour concrétiser la chose à l'hôtel du libre-échange et évidemment, tout le monde va se retrouver là-bas dans une nuit de plus en plus folle. On commence avec un avis rapide, Marie Sorbier.
Bien pour moi, c'était une très bonne surprise. J'avoue que j'avais entendu plein de choses sur ce spectacle et j'y allais sans savoir quoi voir. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Stanislas Nordet quand il monte des textes contemporains parce que je trouve que c'est un des metteurs en scène qui sait lire le théâtre, en tout cas le théâtre contemporain. Et quand on lit dans sa note d'intention qu'il a voulu revenir à Feydeau pour éviter de se caricaturer lui-même parce qu'il avait eu l'impression de faire un peu le tour de tous ses textes contemporains et de proposer parfois des mises en scène qui se ressemblaient. D'abord, je trouve que c'est un geste valeureux et courageux de la part d'un metteur en scène de se remettre en question, donc déjà pour ça bravo à lui, et de revenir à Feydeau où vous venez de lire, en effet c'est pas le plus évident, eh bien il en propose une lecture que j'avais moi jamais vue et j'ai eu la sensation que non seulement Nordet avait tout compris à ce texte-là mais qu'il a réussi, et ça c'est rare, à le transmettre au public sans le tordre, c'est-à-dire que c'est totalement Feydeau donné au public comme un Feydeau tel quel.
Zoé Sfez.
Pas tout à fait d'accord, même si je suis quand même emportée. Moi, j'ai vraiment cru au pire au début, faut le dire. J'ai eu un moment de panique dans les 10 premières minutes. Et finalement, en fait, il construit, Nordet, un espèce de boulot comme ça sur la maniaquerie de Feydeau, qui était un grand maniaque, sur sa propre maniaquerie. Et sur, en fait, la seule piste possible, c'est-à-dire la folie. En fait, quand on est fou et maniaque, et qu'on est comme ça, obsédé par le contrôle, il faut se lâcher. Et donc, il arrive à... Je suis pas sûre qu'il rénove Fedo, mais il nous donne un autre éclairage. Lui, il se fait du bien. Il le dépoussière, il nous dépoussière. Il fait un éloge de la folie, mais on est loin quand même de la satire sociale qui se perd un peu là-dedans. Mais à la rigueur, c'est pas grave.
On écoute tout de suite un extrait de cet hôtel du libre-échange.
Je suis rat.
Comment ?
Je dis que je suis rat. Vite de vous voir.
Calmez-vous, mon cher Mathieu.
Mais je suis cas. Je suis cas.
Qu'est-ce qu'il a donc ?
Oh, mes amis, prenez-vous ça. Attendiez pas à me... voir.
Ah ça, mais qu'est-ce qu'il a donc ? Ah ça, dites donc, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose ?
Poupou ! Quoi ?
Parce qu'il me semble, c'est très peu sensible, mais il me semble que vous vous exprimez avec une certaine difficulté.
En effet, et cet été, pendant les 15 jours que nous avons passés chez vous, nous ne nous sommes jamais... Au contraire.
Ah, cet été... Ah, c'est que pendant ces quinquins, 15 jours, le temps a été su.
Le temps a été su.
Non mais attendez, je n'ai pas fini.
L'hôtel du libre-échange de Fedo, mis en scène par Stanislas Nordet. Marie, quelle lecture fait-il de Fedo ?
Alors, je crois qu'il ne dépoussière pas et je ne crois pas qu'il en fasse une lecture. Je crois qu'il le propose tel quel au public et c'est pour ça que j'ai trouvé que la proposition de Stanislas Nordet était, en tout cas moi, m'a intéressée parce que il la nettoie un peu. Je dirais qu'il l'allège de tout ce qu'on peut voir habituellement sur les Fedo, que ce soit des Fedo en costume ou des Fedo en époque. Enfin, vous voyez, toutes ces mises en scène qu'on a vues. Là, il la stylise un peu comme il sait faire habituellement, mais ce qu'il met à jour, c'est la mécanique du texte et on le sait. Alors, moi, j'ai redécouvert. Je vais dire dès la palissade, hein, mais j'ai redécouvert que Fedo était un génie. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas perçu comme ça, de façon si nette, parce que comme Nordet enlève un peu voilà, des encombres, on entend, en fait, on voit la dentelle de ce texte et comment il est construit. Et ça, c'est vraiment un plaisir de théâtreux. Je vous assure que pour qui aime le théâtre, ce spectacle, c'est quand même un régal, parce que d'abord, on voit des acteurs jouer. Il y a une générosité dans le jeu qui fait du bien, parce que, bah, voilà, vous l'avez entendu. Alors, il faut voir les corps avec, hein, parce que là, bon, la voix ne rend pas justice à ce qui se passe sur scène, notamment le trio de personnages principaux masculins, ils sont vraiment tous les trois incroyables, ils se donnent beaucoup, mais vous savez, Fedo, c'est sur un fil, si tu donnes trop, ça vire au boulevard et c'est plus drôle du tout, et puis si tu donnes pas assez, eh bien on comprend pas la mécanique. Et là, en tout cas, le soir où j'y étais, ils étaient pile sur la corde raide, ça marchait très bien, le public riait beaucoup.
Bah, j'allais vous demander, on rit quand même.
Ah ouais, bon, alors moi j'ai beaucoup ri, alors je sais pas, peut-être en ce moment je ris beaucoup, mais alors j'ai beaucoup ri, voilà.
C'est la fin de l'année.
Alors là, oui, voilà, exactement. Là, j'ai pas pleuré, mais j'ai beaucoup ri sur des choses vraiment très basiques, hein, comme ce personnage qui n'est bègue que quand il pleut. Voilà, bon, moi, ça me fait beaucoup rire. Vous parliez de la satire morale et sociale, qui est quand même aussi le socle de Fedo. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'on la voit dans le sens où Nordet n'appuie pas, surligne pas ce truc-là en disant. Je fais confiance au texte, parce que le texte suffit, on comprend très bien ce que dit Fedo à l'intérieur, et je fais confiance au spectateur. Merci Stanislas Nordet de nous faire confiance et de pas tout nous surligner, parce que nous sommes capables de comprendre. Et là, pour le public, une fois qu'on a vu cette pièce, on ne peut pas ne pas comprendre que c'est quand même une grande critique anti-bourgeoise.
Alors, je tiens à dire quand même que je pense que c'est tout à fait vrai. C'est ça l'histoire de Fedo. Alors, moi, j'ai deux points de vue différents. Je considère que Fedo est un génie. Je l'ai toujours adoré. J'ai tout plaisir à voir du Fedo. Il y avait quand même une mise en scène géniale d'Isabelle Nanty à la Comédie Française, qui était certes plus classique, mais Fedo, c'est quoi ? C'est le rythme. Ce mec est un malade. Et Nordet nous dit bonjour. Je vais vous montrer comment ce mec est un malade, puisque quand on commence, le seul décor, c'est le texte de Fedo et ses didascalies en énorme sur les parois du mur de ce fameux appartement. Cet appartement, donc, c'est ces deux personnes, ces deux couples qui vivent, qui sont voisins de palier. Donc, c'est quand même tout un truc sur l'enfermement, l'enfermement bourgeois, l'enfermement, on s'échappe, on revient, on retourne, on claque des portes, mais pas en boulevard. C'est-à-dire, c'est tout ça nous parle évidemment de l'enfermement bourgeois. Moi, le jour où je suis venue, ça n'a pas ri pendant 20 minutes. C'était dur. C'est-à-dire que, comme il veut nous donner à entendre la langue de Fedot, on refait des pauses. Ces phrases qui sont censées se coller quand même, s'interrompre. Là, on entend le moindre « e » muet. Au début, il y a quelque chose quand même qui relève un peu de la pesanteur et je me suis dit, dans sa manière de vouloir nous faire entendre cette langue, il est en train de casser quelque chose de cette langue et de sa folie et de sa beauté et de son rythme. Ça a fini par prendre grâce à ses acteurs et surtout au deuxième acte, puisque premier et dernier acte, on est dans les appartements bourgeois. Tout le monde rêve, en gros, d'avoir un contact charnel qui, spoiler, n'aura jamais lieu, puisque personne n'a le temps de coucher avec personne, vu que tout le monde se retrouve au même endroit.
C'est plutôt l'idée de l'adultère que l'adultère.
C'est l'idée de l'adultère. Et d'ailleurs, le personnage principal qui veut fuir sa femme, qui n'en peut plus de sa femme, est dans une telle crise au moment où il essaye de pratiquer l'adultère que sa femme lui manque, parce que sa femme reste son soutien principal. C'est génial. Ma femme n'est pas là, alors qu'il avait tout fait pour la quitter. Là, du coup, en fait, au moment où vraiment on rentre là-dedans, il part en sucette, c'est-à-dire qu'on rentre dans la folie, on est dans un univers de signes, de lido, d'hommes de la revue, on bascule complètement. Et moi, j'aime quand on bascule parce que du coup, le corps des acteurs, on est sur un cast d'acteurs qui sont vraiment des routiers de la scène de théâtre. On est sur des couples qui sont vieux, alors que parfois, chez Fedot, c'est des couples qui ont plutôt une trentaine d'années. Là, on est avec des couples de personnes qui ont plutôt une soixantaine d'années et qui sont des corps. Et c'est là où il récupère, on va dire, l'animalité et le rythme de Fedot, c'est par l'Ulysse des corps, ces personnages à la fois longilignes, qui basculent de l'être humain vers l'animal, de la l'autruche femme vers l'homme,
l'autruche,
de l'homme vers la femme, il y a un trouble du genre, et du coup, grande intelligence quand même, finalement, de ce que dit Nordès sur le contrôle. Après, est-ce que, voilà, on est toujours ravis d'avoir des nouvelles lectures de Fedot. Moi, ça ne m'a pas aidé à le redécouvrir parce que quel auteur merveilleux, encore une fois.
Marie, un dernier mot, Marie Sorbière ?
Oui, je voulais revenir sur l'autruche. Moi, je trouvais que c'est super parce qu'il n'y a pas grand-chose en décor, à part ce deuxième acte qui est dans cet hôtel du libre-échange rouge pétard. On est vraiment dans un hôtel de passe, comme on peut l'imaginer. Mais il y a quand même l'autruche qui revient régulièrement. On a des grands portraits d'autruche, donc au début, on ne comprend pas tout à fait. Mais on voit bien au fur et à mesure la métaphore avec cette bourgeoisie, c'est-à-dire l'autruche, l'animal assez élégant, comme ça, avec ce grand cou et ses plumes, mais qui, dès qu'il a peur ou qu'il y a un problème, fourre sa tête dans le sol pour surtout pas voir ce qui se passe. Je trouvais que c'était une figure tutélaire plutôt bien choisie. Et chapeau au costume quand même du deuxième acte, puisqu'ils sont tous habillés en autruche. Et ça, ça valait le coup pour voir ça.
Merci Marie Sorbier, merci Zoé Sfez. C'était donc l'hôtel du libre-échange de Fedot, mise en scène par Stanislas Nordès. C'est jusqu'au 13 juin au Théâtre de l'Odéon à Paris. Puis il y a une tournée, Grenoble, Montpellier, Chalon-sur-Saône. Vous trouverez évidemment toutes les dates sur la page des Midi de Culture, ainsi que toutes les références de ces deux spectacles.